ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville?
Est-ce qu'on sera solidaire entre nous?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi?
Bienvenue dans Notre ville, regard vers le futur. Aujourd'hui, ensemble, on s'intéresse à un mot qu'on entend souvent, mais qu'on prend rarement le temps de décortiquer. Le vivre ensemble. Alors, en 2050, comment vivrons-nous ensemble dans nos villes? Quels liens et solidarités bâtirons-nous? Et quels sont les défis que nous devons relever aujourd'hui pour ne pas laisser notre futur se construire sans nous? Sera-t-il plus inclusif, plus solidaire, plus durable ou au contraire, fragmenté et polarisé? Alors, la notion de vivre ensemble telle qu'on l'emploie aujourd'hui est apparue dans les années 1980-90 en réaction à des tensions sociales croissantes dans certaines banlieues à la montée du communautarisme. Mais alors, vivre ensemble, c'est quoi? C'est vraiment ce qui rend nos relations plus humaines. C'est la capacité, mais aussi la volonté, de vivre dans un environnement partagé avec d'autres, dans le respect de leurs différences. Et pour cela, il faut se parler, il faut se rencontrer, il faut s'écouter, il faut se comprendre, il faut transformer nos préjugés en pompes plutôt qu'en murs. Alors le Conseil de l'Europe y souligne trois piliers du vivre ensemble. Premièrement, la liberté d'expression et le pluralisme des opinions. Deuxièmement, le respect de la dignité humaine et de la diversité culturelle. Troisièmement, la participation active des citoyens aux affaires publiques. Alors, pour entrevoir les défis pour 2050, pour notre ville, à notre capacité à vivre ensemble, on va aller regarder la situation actuellement. Et puis, qu'est-ce que nous racontent les études aujourd'hui sur notre lien social, sur le vivre ensemble? Alors, première étude, celle publiée par la Fondation de France en janvier 2025. Alors, figurez-vous qu'une personne sur quatre souffre de solitude en France. Et 12% se retrouvent en situation d'isolement relationnel, à savoir qu'ils n'ont aucun réseau de sociabilité. Cela continue donc d'augmenter d'année en année et atteint même un pic notable chez les jeunes de 25 à 39 ans, où plus d'un tiers se sent particulièrement seul. Alors l'isolement, bien sûr, touche aussi davantage les personnes les plus précaires. Une deuxième étude, le baromètre des territoires 2025. Qui nous dit que près de 6 Français sur 10 ont le sentiment de vivre côte à côte, voire les uns contre les autres. Et plus de la moitié craignent aussi de ne pas être secourus en cas d'agression. Alors bien sûr, c'est des insécurités aussi socio-économiques, notre peur sur le pouvoir d'achat, et aussi des insécurités liées au climat et ses conséquences. Un autre point de vigilance à avoir actuellement pour la suite, pour 2050, c'est vraiment nous intéresser à la polarisation de notre société. Alors c'est quoi la polarisation? Moi je me suis un petit peu intéressée et essayé de trouver une définition à celle-ci. C'est quand les opinions elles se radicalisent, que les extrêmes prennent le dessus et que les idées plus modérées disparaissent. Alors un peu de polarisation c'est très bien, c'est sain même. C'est un moteur de changement. Quand des opinions s'opposent, c'est souvent le signe qu'un débat est en cours, qu'un progrès se dessine. C'est ce que dit Marcus Wagner qui est politologue à l'université de Vienne. Mais trop de polarisation, c'est l'impasse. C'est plus de dialogue, c'est plus de compromis et parfois plus de décisions possibles. La démocratie se grippe alors. La confiance s'effondre, chacun se replie dans son camp et on finit par tolérer l'intolérable tant que ça vient du bon côté. Les médias et les réseaux sociaux renforcent cette logique. Les algorithmes, les bulles d'opinion, les fake news, vous en avez certainement déjà entendu parler. Donc on ne s'écoute plus et c'est notre vivre ensemble qui en pâtit. Alors que faire pour demain jusqu'en 2050 ? Eh bien, être vigilant concernant nos votes, la polarisation du peuple suit souvent celle des responsables politiques, c'est ce que les études disent. Ce sont eux, du coup, qui ont le pouvoir de faire bouger les lignes. On peut aussi soutenir les initiatives pour réguler les dérives des réseaux sociaux, des médias, et aussi encourager la démocratie délibérative, c'est-à-dire tous ces espaces où les citoyens ils peuvent discuter de manière posée, argumentée. Ça fonctionne, comme c'est le cas dans les bars associatifs par exemple. Mais surtout, ça fonctionne si chacun a envie réellement d'écouter. Plus simplement, entre nous, on peut partager un moment, une discussion, un repas, avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous. C'est ce que recommande la théorie du contact. Alors, une dernière étude du groupe EBRA sur le lien social en 2025, qui nous rapporte un paradoxe. Plus de 70% des Français considèrent que le lien social est mauvais à l'échelle nationale. C'est plus 7% en un an. Alors que 67% l'estiment bon à l'échelle locale. C'est vraiment un baromètre qui est la consécration du local et de la proximité. Alors la proximité, le local, on pense à quoi ? Ben, on retrouve les marchés, les brocantes, les manifestations sportives ou même les bals populaires. De plus en plus sollicités par toute tranche d'âge, les bals folk seront certainement encore un lieu où la solidarité se crée entre les danseurs pour que chacun puisse entrer dans la ronde. Un modèle de vivre ensemble intergénérationnel, inclusif, simple et surtout très joyeux. Alors la proximité, le local, ça se retrouve bien sûr dans les associations de nos quartiers, de nos villes, de nos zones rurales. En 2024, selon les chiffres de Recherche et Solidarité, 24% des Français sont bénévoles dans une association. Et pour bien contrecarrer les nombreux préjugés sur la jeunesse, ce sont les 15-34 ans qui sont maintenant les plus engagés dans la société. Ils représentent 26% des bénévoles, un chiffre en augmentation de 10% en quasiment 15 ans. En parallèle, les 65 ans et plus, qui représentaient 35% des bénévoles en 2010, ne sont plus que 23% en 2024. Alors, c'est quoi ces raisons de nous engager, tous et toutes, en tant que citoyens ? Qu'est-ce qui nous pousse à cet engagement bénévole ? Alors, la chose qui ressort le plus, à 85%, c'est d'être utile et de défendre une cause qui nous tient à cœur. Alors que l'épanouissement personnel revient juste à 42%, et diminue même depuis 2019. Le sentiment de changer un peu les choses est vraiment un moteur de l'engagement, encore plus important, voilà, que l'épanouissement personnel. Pour eux, le terme bénévole fait avant tout référence à un citoyen engagé qui se veut acteur. Alors, les bénévoles, en faisant cette activité dans des associations locales autour de nous, ça leur permet d'être à l'écoute des autres. C'est 70% des bénévoles qui font ressortir cette écoute et de mener des projets en équipe pour plus de la moitié des personnes. Alors le poids de l'association pour faire société et vivre ensemble est donc central. L'économie sociale et solidaire joue ce rôle majeur où ces structures locales placent l'humain au cœur de leurs actions. Et donc, on le devine bien, le soutien des politiques publiques est nécessaire pour sécuriser cet écosystème, pour sécuriser les financements des associations et de l'économie sociale et solidaire, pour ces projets de vivre ensemble. Le CESE, le Conseil économique social européen, suite aux nombreux désengagements actuels et depuis les dernières années, nous alerte justement sur ce phénomène de marchandisation et de financiarisation du secteur associatif et alerte les dirigeants en parlant d'urgence démocratique à renforcer le soutien financier au secteur. Alors on souhaite pour 2050, pour notre ville du futur, que cette mesure d'urgence ait bien été prise en compte. L'engagement citoyen, bien sûr, est parfois propulsé directement par les villes elles-mêmes. Comme ici à Bourg, les conseils de quartier, les budgets participatifs, les consultations citoyennes. Autant de dispositifs qui incitent les citoyens à prendre part aux décisions qui les concernent. Et c'est bien ce que dit le Conseil européen au début. C'est vraiment la participation active des citoyens aux affaires publiques qui fait en sorte qu'il y a du vivre ensemble dans notre société, dans notre ville. Et donc, du coup, prendre part aux décisions qui nous concernent, nous impliquer dans cette vie collective à devenir acteur de notre cadre de vie. Alors, autre sphère du vivre ensemble, intéressons-nous maintenant à nos voisins. Même si en ville, les liens entre voisins peuvent parfois sembler discrets, presque anodins, ils n'en demeurent pas moins précieux. Déjà, en 2023, une étude menée par Se Loger révélait que 65% des Français déclaraient entretenir des bonnes relations avec leurs voisins. Et 81% avaient déjà rendu service à un voisin. Donc forcément, ces chiffres témoignent d'une volonté de renforcer ces solidarités de proximité. Alors, qui dit voisin dit fête des voisins. Peut-être que vous en avez déjà organisé une, ou peut-être qu'il y en a une prévue en mai, par chez vous. Initiée en 1999... pour la première fois et qui maintenant est un peu un rendez-vous incontournable entre certains voisins. En 2019, elle rassemblait 10 millions de participations en France. Ce succès illustre bien le désir profond des citoyens de créer des réseaux locaux de sociabilité. Et on le voit bien, si c'est une souffrance pour certains d'être exclu et de se sentir seul, c'est bien que ce lien social est précieux pour tout le monde. Des initiatives comme Voisins Malins, lancées en 2010 dans les grandes villes, ont également contribué à tisser des liens dans des quartiers populaires en employant des habitants pour aller à la rencontre de leurs voisins et faciliter aussi l'accès à l'information. Alors ce rituel simple d'aller saluer et rendre un service à son voisin témoigne d'une envie profonde, celle de faire communauté à l'échelle locale, là où l'on vit vraiment. Vous écoutez Notre Ville, Regard vers le futur, sur Radio B. Alors certains en 2050 ne chercheront certainement plus seulement à cohabiter, mais à habiter ensemble. On peut imaginer que l'intérêt actuel de certains citoyens pour habiter autrement ne se sera pas essoufflé. Bien au contraire, il peut s'ancrer plus profondément encore dans les aspirations collectives. Bah oui, face aux crises climatiques, aux tensions sociales, à l'isolement croissant qu'a provoqué l'urbanisation accélérée du début du siècle, beaucoup de citoyens et citoyennes voudront redonner du sens à leur manière d'habiter. Alors, petit retour en arrière, on peut se rappeler historiquement le début de l'industrialisation, qui a fait naître de véritables utopies sociales. On pense alors aux cités ouvrières, aux phalansphères, aux familistères. Ces expériences avaient en commun une ambition forte, celle de créer des lieux de vie pensés pour les ouvriers et leurs familles, souvent à deux pas de l'usine. On y partageait des équipements, on y partageait des espaces communs et parfois même des services. C'était une manière d'organiser la cohabitation, mais aussi de créer du lien de la solidarité entre voisins. Alors, des formes actuelles d'habitat coopératif, partagé, participatif ont fleuri un peu partout, on le voit. Souvent en lien avec des projets à la fois écologiques, sociaux et citoyens. Alors bien sûr, on peut y cultiver des potagers communs, on peut y partager des espaces de vie, des savoir-faire, des responsabilités. Ce n'est plus seulement un mode d'habitation finalement, mais c'est bien un projet de société à taille humaine, à échelle humaine aussi. Cette dynamique, elle s'appuie sur un désir profond de cohérence, vivre dans un logement qui correspond à ses valeurs, tisser des liens au lieu de se cloisonner, se sentir responsable de son cadre de vie et être acteur de cette transition que l'on souhaite en 2050. Et en 2050, je suis sûre que ces manières d'habiter ne seront plus marginales, elles seront des véritables laboratoires du vivre ensemble. Alors bien sûr, toutes ces initiatives, il y en a déjà à côté de chez nous, parfois dans les grandes villes, à côté de chez nous à Lyon, et qui peuvent nous inspirer. On pense alors à des cohabitations solidaires entre des personnes valides et des personnes du coup porteuses de handicap, comme le fait Simon de Sirène ou L'Arche. On pense à des colocations entre sans-abri et jeunes actifs, comme l'association Lazare. Et puis il y a des CAPS avec la Fève, association d'éducation populaire qui propose des logements étudiants en quartier prioritaire où une partie du loyer se paye en action solidaire au service du quartier. Le logement devient donc un acte citoyen. Il y a aussi des initiatives depuis peu sur notre territoire. On pense aussi aux cohabitations intergénérationnelles et solidaires entre jeunes et moins jeunes, comme ceux proposés par l'association Partage. Alors, imaginons notre ville en 2050. Est-elle devenue plus humaine ? Peut-être bien. Parce que des espaces publics sont enfin pensés pour la rencontre. Des places ombragées, des bibliothèques ouvertes, des jardins collectifs. Parce que les collectivités ont soutenu ces tiers-lieux, des crèches partagées, des festivals de quartier. Parce que les voisins ont repris la parole et ont créé du lien. Et c'est vrai que les défis restent nombreux jusqu'en 2050. Des fractures sociales, des inégalités d'accès aux services, des discriminations, du racisme encore. Et les différences culturelles peuvent enrichir cette ville si on les gère avec intelligence et bienveillance. Alors il faut garantir à chaque citoyen un droit fondamental. Celui, au final, de vivre dans un environnement sain, accueillant, stimulant. Un droit au voisinage, un droit à la relation. Vivre ensemble, ce n'est pas une utopie, c'est une construction collective quotidienne, un choix de société, une responsabilité partagée. Une promesse aussi, celle d'un futur plus juste, plus solidaire, plus habitable. Alors, si vous voulez nous rejoindre pour le prochain événement de Ville du Futur à la MCC, rendez-vous le mardi 27 mai à 18h30. On organise à la suite de toutes ces émissions radio et parce qu'on a eu un temps d'échange entre nous, acteurs de cette émission radio, ça nous a fait du bien de partager autour de ces grands sujets de société et autour de notre éco-anxiété. C'est ce qu'on veut vous proposer ce mardi 27 à 18h30, un temps autour du climat et des émotions que ça provoque chez nous. Alors viens échanger avec nous. C'était Notre Ville, Regard vers le futur, avec cette émission, on imagine ensemble un avenir qui nous rassemble. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vos liens et continuez à écouter et vous intéresser aux autres. Merci, à bientôt.
ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville?
Est-ce qu'on sera solidaire entre nous?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi ?